100 ans d'histoire. Innovation scientifique, relations internationales et succès culturel. Jean-Sara Méa, historien, raconte les années anniversaires de 2025.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous convie à un saut en arrière dans notre temps, puisqu'il y a encore bien des personnes vivantes et qui s'en souviennent. On a bien commémoré la libération de la France, 1944-45, donc il y a 80 ans, mais on s'est rarement posé la question, que se passe-t-il juste après ? Et avant la mise en place de la 4e République, qui est fin 1946. Donc, comment vit-on en France à l'automne 1945 et quels sont les choix importants qui vont structurer l'avenir et qui se prennent à ce moment-là? La France est dirigée par le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française, puisque ce n'est plus l'État français du maréchal Pétain, ce n'est plus la Troisième République et ce n'est pas encore la Quatrième République. C'est le général de Gaulle qui est à la tête de ce gouvernement provisoire. La capitale Paris a pendant des mois de grandes difficultés à communiquer avec les provinces. Il ne faut pas oublier que les ponts ont sauté. Il ne reste qu'une locomotive sur six et même le téléphone ne fonctionne pas souvent à cause des coupures d'électricité. Donc, dans chaque province, Gérald de Gaulle a nommé un commissaire de la République avec énormément de pouvoir, le temps que les nouvelles institutions soient en place et possibles. Un contexte de terrible pénurie. Pénurie alimentaire, pénurie d'énergie, pénurie de transport et pénurie de logements. Beaucoup de logements dans les lieux où il y a eu combat ont été détruits. Il n'y a quasiment pas eu de construction pendant la guerre et l'occupation. Or, on est en plein baby-boom. La natalité a fortement augmenté à partir de 1943, ce qui a beaucoup surpris les démographes. Le baby-boom va durer jusque vers 63-65. Donc, un contexte de survie avec des rations alimentaires, surtout dans les villes, extrêmement faibles, très en dessous des besoins pour des travailleurs. Or, il faut reconstruire un pays où les destructions ont été importantes. Ensuite, au niveau sociétal et politique, il faut ressouder la société française qui sort d'une longue période de peur pendant les quatre années du régime excluant et très répressif du maréchal Pétain. Rappelons que le maréchal Pétain a été condamné et sa peine commuée le 15 août 1945, mais qu'il a perdu officiellement son titre de maréchal. Rappelons que maréchal n'est pas un grade, mais un titre. Donc, l'État doit encadrer l'épuration. Dans toute l'Europe qui a connu une occupation, l'épuration est plus ou moins sévère. Donc, en France, ce sont les chambres civiques, les cours de justice et la haute cour pour les personnalités. Ça dure trois ans au moins. Alors évidemment, ça laisse un souvenir délicat parce que les familles des condamnés considèrent que ça a été beaucoup trop sévère et les familles de ceux qui avaient souffert des délations qui entraînaient prison, torture, déportation, etc., ont trouvé que la justice était beaucoup trop laxiste. Alors les historiens ont fait toute une série de comparaisons. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu quand même 300 000 dossiers devant ces cours de justice sur 40 millions de Français. C'est quand même pas négligeable. Il y a eu beaucoup de peines de prison, même si à partir de 1947 et surtout 1953, les lois d'amnistie ont libéré beaucoup de monde. Il y a eu très peu au niveau de l'épuration judiciaire. Il y a eu très peu d'exécutés. Moins de 800 peines de mort exécutées. Par rapport aux pays voisins, Italie, Belgique, Hollande, les historiens disent que l'épuration a été bien moins sévère que dans les pays voisins, mais par contre, il y a eu plus de morts proportionnellement à la population. Ensuite, il faut consulter les Français et les Françaises, puisqu'elles votent depuis le printemps 45, il y a déjà eu les municipales au printemps, les cantonales en septembre. Et alors là, le grand jour, c'est le 21 octobre 1945. Il y a deux référendums. On demande aux Français s'ils veulent garder la Troisième République. Et à 96%, ils disent non. Donc, les députés qu'ils élisent le 21 octobre 1945 sont une assemblée constituante en même temps qu'une chambre des députés. Et alors là, trois partis politiques sur les six qui peuvent se présenter ont, disons, les trois quarts des votes. Dans un mouchoir de poche, il y a un, le Parti communiste, deux, le MRP, Mouvement républicain populaire, ce sont les chrétiens centre-gauche, et trois, le Parti socialiste. Donc, se met en place ce qu'on va appeler le tripartisme, avec un exécutif dirigé par le général de Gaulle. Donc, il y a compromis permanent. Donc, il faut débattre, et ça va durer à peu près un an. Quel exécutif? Y aura-t-il un président de la République? Y aura-t-il un droit de dissolution? Y aura-t-il un pouvoir issu essentiellement du Parlement ou un pouvoir fort de l'exécutif? Donc, il y a toute une série de questions qui vont être longuement débattues. Ensuite, quelque chose qui ne fait pas débat à l'époque, mais quand on connaît la suite de l'histoire, ça paraît important. Que fait-on de l'empire colonial? Ça ne fait absolument pas débat, d'abord parce que la résistance n'y a pas réfléchi, et pour tous les partis politiques, partis communistes compris, et pour le général de Gaulle, c'est une évidence que l'empire reste français. C'est un élément de souveraineté et l'empire colonial va aider la métropole à se reconstruire et à garder une présence politique internationale. Donc, il n'y a pas, sauf à la marge, de réforme profonde dans l'empire colonial. Et dès septembre-octobre 1945, le général de Gaulle envoie avec le général Leclerc un corps expéditionnaire de 30 000 hommes pour reconquérir l'Indochine qui avait été conquise par les Japonais et partagée avec les Chinois, tout au moins dans la partie nord. Donc, reconstruire la France avec un pacte social en demandant beaucoup de travail aux Français, il n'est guère possible, étant donné le contexte, de faire venir énormément de main-d'œuvre immigrée. On laisse entrer pas mal d'Italiens, la misère est bien plus forte à l'époque en Italie qu'en France. Donc le nouveau pacte social repose sur la sécurité sociale, qui est décidée en octobre 1945. Sécurité sociale réservée aux salariés. Les agriculteurs et les indépendants n'en font pas partie et ne le souhaitent pas d'ailleurs, avec un équilibre durable entre les cotisations et les bénéficiaires. Sécurité sociale, c'est à la fois les allocations familiales, la retraite des vieux, les allocations en cas d'accident du travail et de chômage. Le chômage est quasiment inexistant. Ensuite, quelle priorité pour reconstruire la France. Là, le général de Gaulle décide, et les trois grands partis sont absolument d'accord, de mettre en place un plan indicatif, mais qui va donner des priorités. Il faut d'abord du ciment, il faut des barrages hydroélectriques. Bon, ce ne sont pas les produits de consommation qui sont urgents. Et le général de Gaulle, c'est fin novembre, il demande à Jean Monnet, M-O-2-N-E-T, qui a d'excellentes relations avec les États-Unis, de diriger une planification à la française, et ça va être excellent. Et c'est la 4e République qui va planifier non seulement la reconstruction, mais la modernisation de la France. Les grandes entreprises qui n'ont plus les moyens d'investir vont être nationalisées. Le charbon, l'électricité, le gaz, les grandes banques et les assurances. Ça se fait en grande partie en novembre, décembre et début 1946. Et comme il faut, pour gérer ces entreprises et ces secteurs qui désormais vont appartenir à l'État, il faut un personnel compétent, il va y avoir quelques grandes écoles, y compris l'ENA, l'École nationale d'administration, qui vont être gérées, créées éventuellement par l'État pour cela. Donc, une période d'intenses débats et de choix, encore une fois, qui structurent l'avenir, avec une double temporalité. Ce gouvernement provisoire doit gérer l'urgence, c'est-à-dire le temps très court, et préparer un futur moderne, donc un temps moyen ou un temps plus long, ce qui sera fait avec beaucoup de volonté et dans des circonstances difficiles, puisque la 4e République connaîtra la guerre d'Indochine, 8 années, et la guerre d'Algérie, qui commence juste après, 8 années, dont 4 sous la 5e. Donc, un contexte qui n'est pas facile, mais une volonté et des décisions importantes pour l'avenir de la France. Alors, c'est l'anniversaire, disons, les 80 ans de l'automne 1945, et une chanson va peut-être être un symbole, ces feuilles mortes qui se ramassent à l'appel. C'est à la fois l'allusion à ce passé que l'on s'empresse d'oublier parce que on a foi dans un avenir meilleur pour soi-même et pour les enfants du baby-boom. Merci à toutes et à tous.
Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants.